bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour ce Quartier Libre, une émission spéciale avec Pierre Caron que je reçois avec grand plaisir. On va découvrir les métiers du plâtre et son métier d'artisan. Vous êtes gypier, bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Alors on va faire un petit tour du côté de ce métier d'artisan, oui. Déjà à savoir les difficultés que l'on peut rencontrer et les plaisirs aussi, j'imagine.
Évidemment, oui. Voilà, c'est suite ce week-end dernier, samedi, donc j'étais à l'école d'Avignon, j'ai fait une conférence sur le plâtre. J'en ai réalisé une autre qui a eu un vif succès, et marqué aussi l'intérêt du public, comme à Avignon, et qui s'est déroulée le 2 avril à Saint-Julien-d'Ars.
Alors justement, on va revenir dans ces conférences sur les métiers du plâtre. Déjà, est-ce que ça s'adresse à un public averti ?
Oui, il est souhaitable, bien sûr, c'est ce que je souhaite, mais je ne souhaite pas que ça, bien sûr. Je souhaite répondre à tous ceux qui viennent par curiosité ou autre. Hein. Et ils sont toujours ébahis de découvrir que le plâtre, c'est pas qu'un mur plâtré, que c'est bien, bien, bien des éléments, et qui vont aussi bien de l'escalier, des voûtes, etc. quoi, hein. Donc... Pour moi, ça a été l'occasion de bien commencer l'année, car j'ai toujours gardé au fond de moi notre ancien calendrier qui commençait le 1er avril. Ensuite, j'ai pu présenter lors de ces conférences des côtés plus ou moins techniques au travers de vidéos, l'historique de la matière, et de façon plus technique, la voûte de charge et de répartition des escaliers catalans, sarrasin, hélicoïdo, le tracé des voûtes d'arête avec l'ovale du jardinier, le mélange plâtre, chaux aérienne, vermiculite pour les cheminées, protection incendie, isolation thermique, la préparation de la colle de peau pour faire du stuc marbre, le modelage et non la sculpture, et en ce qui concerne la gypserie, etc. etc.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est la gypserie ?
Alors, la gypserie, ce n'est pas du staff. Le staff, on va préfabriquer, on va prendre le temps en atelier de tirer des moulures, de faire des décors, et on va les tirer soit en plusieurs exemplaires, et une fois sec, on va venir les coller sur place. La gypserie se travaille directement sur le mur. J'irai même étendre la gypserie sur tous les petits décors qu'on peut faire, quels qu'ils soient, et même d'une manière générale, ce qui est réalisé sur place. Un escalier, c'est presque de la gypserie. Bien sûr, il y a des briques dedans, mais une grosse moulure, il y aura aussi des briques dedans. Donc, c'est vraiment la réalisation in situ qui la marque, quoi. Donc, voilà. Bien sûr, le plâtre, c'est rentré dans tous ces éléments de fabrication, d'artisanat. Lors de ces conférences, je ne me suis pas étendu sur le côté enduit plâtre extérieur. En soi, ça mérite une réelle conférence et on n'en avait pas la disponibilité. Dans ce domaine, il est bon de savoir que la région dinoise est un des fleurons du plâtre extérieur et quasiment un épicentre de la Provence. Les gisements de gypse sont nombreux. Aix fut bâti au plâtre, comme Lacadière, Roquevert, Martigues, Mazan, Lantosque, et bien sûr, Castellane, Riez, Valensole, tous les villages de la région. Et Saint-Jurs, notamment, dans ce village, il y avait 6 fabricants de plâtre dans une certaine période. C'est quelque part, on a créé une confusion avec ces gypassiers, ces fabricants de plâtre. Et aujourd'hui, il est de mode de parler du plâtre paysan.
Alors, vous me disiez justement, moi, je connais rien, bien sûr, en plâtre, mais il y a 40 espèces de plâtre.
Oui, c'est ça, nous en parlions quelque part. Ouais. Je peux en citer beaucoup plus, parce que, par exemple, des gros fabricants de plâtre, on n'en a en gros que 2, c'est-à-dire ici en France, Placoplâtre et maintenant Simiat, l'ancien Lafarge. ont peut-être à peu près 200 formulations de plâtre différents, suivant là où ils doivent aller. Des formulations pour faire du carreau de plâtre, du placoplâtre, etc. Des plâtres ignifuges, des plâtres hydrofuges. Donc tout ça, ce sont des formulations. Sur le commerce, on trouve à peu près une quarantaine de plâtres, entre les plâtres de moulage, les gros plâtres, etc., le bricteur, tout ce que on... Les enduits de peintre, par exemple, le PF lisse, ça va être encore un plâtre de base avec rempli d'acide tartrique ou citrique et d'autres gélifiants éventuellement. Et ensuite, le troisième fabricant de plâtre qu'on retrouve, c'est les plâtres Viogeau. Et lui, il est tout petit à côté. Et avec sa carrière à Montmorency, il continue à proposer des plâtres pour les monuments historiques. Il remélange tout cet ensemble. On lui envoie un échantillon, il vous le renvoie tout prêt en sac avec du charbon de bois, de la terre cuite, etc. En fait, tout ce qu'il a dans l'échantillon qu'on lui a donné, il vous le renvoie même bien sûr avec la couleur et le retard que vous souhaitez avoir si vous en avez besoin, si vous passez avec une machine. Voilà, donc des plâtres, il y en a tant, tant, tant et plus. Il y en avait certes beaucoup moins avant, et bien sûr. Quand on faisait cuire du gypse, on avait le plâtre qui correspondait à plus ou moins la cuisson, des surcuits, des incuits, et une sélection qui se faisait en fonction des filons et de la qualité du gypse au départ. Et puis ensuite, on se retrouvait avec une petite sélection pour finir les gypseries. Beaucoup de gypseries étaient faites dans la masse avec des plâtres vulgaires. Et c'est vrai que quand on gère un peu la matière, c'est comme un enduit à la chaux. Vous allez beau avoir des cailloux dedans, vous allez pouvoir le finir très très lisse.
Alors, vous avez commencé, ça fait depuis 1975, donc que vous avez découvert en fait
Non,
d'où
pas
vous
tout à
vient
fait.
Cet engouement
Disons,
du plâtre.
L'engouement, déjà au départ, il était surtout manuel. Il fallait que je fasse. Et donc j'ai eu un engouement surtout dans la charpente couverture, dans une période où j'avais toujours besoin d'être dehors et en hauteur. Et puis donc je suis parti à Nantes, j'ai remonté le toit d'un moulin à vent que les Allemands avaient rasé pour mettre leur artillerie. Je suis descendu ensuite dans l'Aveyron. J'ai refait des toits en lauze avec ce genre de charpente en A très pentue, mansarde et tout le reste. Et puis, une fois arrivé sur Aix, je me suis associé avec des artisans, des amis qui m'attendaient quelque part. Et on a restauré des mâts provençaux complets, quoi, aussi bien la couverture, les enduits, les sols, le carrelage, l'électricité, la plomberie. Et tout ça, bien sûr, ça m'a fait découvrir l'ensemble d'une habitation ancienne. Et c'est le plâtre qui a eu
Ça a suscité beaucoup d'intérêt tout d'un coup.
Oui,
Oui,
tout à
voilà.
fait. Et à partir de là, j'ai plus souhaité faire autre chose, quoi. C'est le côté rapide, d'une part. Ça peut être un inconvénient, mais ça passe très vite. Et puis surtout l'aspect modelage. On met de l'eau, du plâtre, et on a différentes possibilités. On peut faire à sa guise un gros bouchon, comme on peut faire une petite soupe. Et tout ça peut s'utiliser différemment. Alors bien sûr, en avançant vers ce savoir-faire, j'ai découvert à peu près toutes les recettes et même les outils qui s'imposaient, comme les gabarits, etc., quoi.
Donc vous avez été formé par qui?
Ben, je me suis formé tout seul.
Tout seul, autodidacte, hein,
Oui, c'est pas vraiment ça. C'est le bâti ancien qui m'a formé. Je veux dire par là, on est souvent amené à supprimer un élément pour le refaire complet, puisqu'il va tomber, soit les plafonds, soit les cheminées, etc. Et à ce moment-là, on s'interpelle de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Et on a les recettes tout de suite et les bonnes recettes. Lorsque vous, par exemple, vous promenez et vous voyez des ruines, si par exemple vous avez une cheminée qui est pendue à une vieille ruine, alors qu'il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien, les murs commencent à s'effondrer, c'est que le travail a été bien fait. Si par contre on a tout empilé et puis on ne retrouve plus la cheminée, on a juste la trace du feu, la cheminée est par terre, elle est partie avant tout le reste, c'est qu'il y avait un problème. Donc c'est comme ça que j'ai appris mon travail. Et donc pendant plus au moins 20 ans, je me suis fait mes recettes, ma sauce, et puis j'ai eu la chance surtout de pouvoir travailler, de progresser sans arrêt, puisque les clients provoquaient sans arrêt mon savoir-faire et voulaient toujours plus.
Est-ce qu'on fait beaucoup d'erreurs au début? Est-ce qu'il y a, il y a beaucoup de ratés?
Des erreurs, dans la mesure où on va réfléchir et faire, on peut dire qu'on n'en fait pas. Après, au gré du temps, on apprend encore plus et on s'aperçoit bien sûr qu'on aurait pu aller plus vite à ce moment-là. Telle façon, tel procédé que j'ai appliqué n'était pas utile. Et par exemple, si on doit bâtir des voûtes ou des escaliers, on va avoir tendance à mettre un coffrage alors que le collage des briques, grâce au plâtre, permet de le supprimer. Et c'est tout l'intérêt, bien sûr, lorsqu'on fabrique un escalier, de ne pas avoir à coffrer. C'est là où on gagne du temps. Bien sûr, il faut savoir où on va. Ça, c'est trop évident. Donc, c'est à force de faire et toujours faire qu'on progresse. Il n'y a pas de solution. Moi-même, disons, au bout d'une vingtaine d'années, je commençais à avoir des doutes. Je me disais, c'est quand même dommage. Peut-être il y a des méthodes plus faciles, plus rapides. J'étais à peu près au bout de tout mon savoir-faire. Et c'est à cette période qu'est sortie l'encyclopédie des compagnons du devoir. J'en profite en passant pour citer Joël Puisé, 5 générations de plâtriers qu'il a écrites, qui se trouvent toujours dans le commerce, du moins en vente. Lorsque j'ai découvert cette encyclopédie, je me suis rendu compte qu'il avait fallu que je me fabrique tous les gabarits, les outils, etc., comme c'était écrit. Donc, quelque part, on ne peut pas échapper au métier et à ses savoir-faire, même si on doit les retrouver en tant qu'autodidacte.
Donc, un savoir-faire qui demande du temps et des expériences. Et en 20 ans, donc, des progrès et une renommée, Pierre
oui,
Caron.
Oui, c'est certain. Alors après, de tout cela, je me suis dit, on m'a souvent demandé de bien vouloir faire de la formation. Ce n'était pas du tout un objectif chez moi. C'est un peu comme les chantiers, quand ça plaît, on ne sait pas dire non. Mais c'est vrai que si je pouvais éviter à beaucoup de gens soit des erreurs, soit la découverte de la matière et les faire avancer plus vite, ça permet d'aller encore plus loin que ce que j'ai pu, là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte que même sans avoir appris à mon fils, il a vu toutes mes techniques, etc., et que finalement, tout ce que je sais faire, il sait le faire. Et puis, ça aura été certainement plus rapide pour lui, quoi. Et aujourd'hui, ça lui permet de finir encore mieux grâce à toutes ces recettes qu'on s'est données ou une compréhension de l'ensemble des capacités, du travail et surtout des matériaux que nous avons aujourd'hui avec facilité.
Est-ce qu'il a été l'un de vos premiers élèves?
Non, pas du tout.
Non.
Au départ, puisque je travaillais déjà quand il est né, donc ça ne pouvait pas le faire. Mais ayant beaucoup progressé, donc je me retrouve avec des chantiers beaucoup plus importants. Et pour ne pas les refuser, j'avais la chance d'avoir rencontré beaucoup de plâtriers qui souhaitaient soit réaliser une cheminée avec moi-même, soit faire des moulures, etc., pour avoir une corde de plus à leur arc. Et donc, c'est devenu beaucoup d'amis. Et lorsque j'avais des beaux chantiers, on se retrouvait tous ensemble et on avait l'occasion, bien sûr, d'en apprendre encore un peu plus. Moi-même, j'ai rencontré des plâtriers avec chacun un petit peu leur méthode, leur propre façon de voir les choses, leurs outils, même si tout ça se ressemble.
Donc, on va rappeler que votre fils poursuit l'exercice et peut aussi être contacté pour lui aussi aller sur...
Oui, bien sûr. Je sais qu'au travers d'une de mes filles, on a donc fait un site internet. Bien sûr, il est ce qu'il est, hein, il n'est pas du plus joli, puisque je n'ai jamais pris des photos de ce que je faisais. Pour moi, c'est presque un refus. Alors, j'ai mis les photos qu'elle a trouvées, elle s'est arrangée avec. Et donc, on peut le retrouver sur ce site, gypserie.com. Voilà, ça vous permet éventuellement, si jamais vous aviez des problèmes, des questions. Pour les questions, si c'est des problèmes de chantier, j'y réponds à tout le monde.
Alors justement, on parlait tout à l'heure hors antenne de votre refus de cet outil Internet. On ne peut pas être artiste, artisan et en même temps commerçant.
Non, d'ailleurs, mon fils, il est pire que moi, quoi. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que justement il rentre là-dedans, parce que c'est quasiment obligatoire de passer par tout cette informatique, cette facilité qu'on a au travers des mails, etc. Et c'est pas son truc. Ce qu'il aime, c'est travailler, quoi.
C'est faire.
Faire et sans arrêt. Donc, si c'est pour répondre. Je vous assure, si vous lui envoyez un mail, je crains bien qu'il ne réponde jamais, parce qu'il les regarde vraiment. Quand il les regarde, c'est parce que une fois par mois, je descends le voir et puis je lui dis, il faut qu'on regarde les mails, quoi.
D'accord. Donc pour vous joindre, c'est le portable.
Voilà, c'est certain qu'il perd des clients, tout ça, mais il est tout le temps... Ce qui lui plaît, c'est d'être dans un plafond quelque part et puis de... Voilà, puis de faire de la gypserie ou du plâtre. Ou... Moi-même, je me souviens, j'ai connu le départ du fax à l'origine. Et j'avais des architectes ou des décorateurs qui me disaient « Monsieur Caron, on ne peut pas travailler avec vous, vous n'avez pas de fax, etc. » Et je leur répondais toujours « Mais moi, je n'ai pas besoin de travailler avec vous. Voilà, on a assez, quoi. » Et l'idée, c'était pas de prendre des chantiers, de faire de l'argent et tout, non, c'est vraiment d'être dedans, il n'y a que ça, c'est en faisant qu'on s'améliore et bien sûr qu'on en fait de plus en plus. Ça parle tout seul, le commercial, et ben les gens, ils le voient, ce qu'on fait, et ça fait un bouche à oreille qui fonctionne
tout
seul.
Oui, c'est votre meilleure publicité, en fait.
Bien évidemment, oui. Et moi, qui étais moi-même inquiet, vu tout ce que j'avais fait, que mon fils, finalement, n'en profite pas, quoi. Eh bien, je vois qu'il est pire que moi, quoi. Et donc, sur un plan publicité, eh ben, comme il est meilleur que moi et qu'il finit mieux, sa publicité, elle parle toute seule, quoi. Voilà.
Alors, vous parliez des métiers de décorateur aussi. Vous êtes considéré comme un décorateur aussi, puisque...
Ah ben, ça se fait d'une manière évidente, quoi. D'une part, parce que sans arrêt, on a un peu envie de faire autre chose. Ce qu'on a déjà fait, on ne souhaite pas d'office, donc on souhaite le faire progresser. Dire que je suis décorateur, je crois que par rapport à, on va dire, 80% des décorateurs, je suis mieux, bien sûr. Parce que malheureusement, beaucoup de décorateurs, ça, c'est quelqu'un qui pense qu'à l'argent. Et donc, s'il arrive dans une maison où tout est noir, il va dire il faut tout blanc. Si c'est tout blanc, il va dire il faut tout noir. Ou alors, là où il y a une ouverture, il va vous la faire fermer pour en ouvrir une autre part. Enfin, il voit que le chiffre d'affaires et son pourcentage sur le travail des artisans. Après, des vrais décorateurs, il y en a, ils sont au top niveau. Et à ce moment-là, ils connaissent exactement tous les styles, etc. Comme dans toutes les professions, il y en a encore beaucoup, quoi. C'est pas ce qui manque.
Quand on fait appel à vous, on vous fait entièrement confiance, on ne vous donne pas de directive, on vous dit qu'est-ce que vous imagineriez ici ?
Ben, c'est assez évident, oui. Et puis je sais que des fois, il nous est plus facile de faire pour que les clients voient, quitte on s'engage nous-mêmes à devoir le refaire avec leur jugement, leur intérêt. Mais au moins, on sait ce qu'ils souhaitent obtenir à la fin, quoi. Et bien sûr, tout ce qu'on fait sur place, et ben, directement, ça plaît. J'ai jamais eu l'occasion de refaire un travail que j'avais avancé, disons. Et après, bien sûr, tout dépend des clients, quoi, hein. Certains ont besoin de 36 dessins, de réfléchir, etc., de voir à droite, de voir à gauche, c'est tout à fait normal. Et puis d'autres, par contre, comme c'est du bouche à oreille, ben, ils souhaitent que je m'amuse et puis c'est très bien, quoi. Donc je m'amuse et puis l'important, je crois, c'est quand on s'amuse à ce niveau-là, c'est de ne pas avoir des prix de folie, de ne pas chercher à gagner sa vie. Sa vie, on l'a, elle est plaisante, on a une vie plaisante. Je ne vois pas pourquoi s'il y a une suffisance dedans. Et si on veut que tous ces décors réapparaissent et continuent à être, hein, qui demandent beaucoup de temps et donc quelque part de l'argent, il ne faut pas profiter d'une notoriété soi-disant d'artiste et puis envoyer des trucs à la sauce où le client, finalement, on va en perdre une dizaine, mais alors que les 10 souhaitaient de la gypserie, quoi. Et donc, il faut, je crois, être assez humble et être simplement heureux de son petit passage, quoi.
au cours de votre vie professionnelle, donc, vous avez certainement rencontré et été amené dans de nombreux monuments historiques.
Oui et non. Bizarrement, je me suis retrouvé à faire des mosaïques à la cathédrale d'Aix. J'ai jamais trop su pourquoi, quoi. Mais c'est comme ça. Et là, c'est vrai que j'ai répondu oui parce que ça me plaisait, quoi. C'est encore un autre métier et j'ai toujours eu un côté à me provoquer, sachant bien sûr que ça demande des renseignements, un travail en amont pour réussir comme il faut et rendre tout cet ensemble comme il se doit, quoi. Mais dès le départ, j'ai jamais voulu travailler pour les monuments historiques parce que pour moi, on ne fait que réparer les petits morceaux à droite, à gauche, etc. Même si, bien sûr, d'être dans un monument historique, c'est ce que j'aime. Mais on n'a aucune création possible. On va réparer un morceau de moulure. Bon, on apprend à faire un gabarit, etc., le réparer, choisir les...
Oui, c'est moins créatif.
Tout à fait, oui. Par contre, plus que d'autres, on saura respecter les matériaux du mur, etc., l'adapter sans faire n'importe quoi, n'importe quel produit qui allait bien et qu'on applique partout, quoi. Mais c'est la création, bien sûr, qui me plaisait, quoi. Et tous ces décors, bien sûr, n'ont pu que m'inspirer, puisque je suis toujours... Dès que je peux, je vais coincer une porte d'un immeuble avec soi pour voir si dans le hall, des fois, il n'y a pas quelques petits décors. Essayer de rentrer ou sonner quelque part en étant sûr qu'à l'intérieur, il y a des choses fabuleuses. Et ici, c'est un peu pareil, quoi. Lorsque je me promène à Riez, eh ben, c'est certain que j'analyse tous les plâtres anciens qui peuvent être même à l'extérieur du 15e et du 16e et qui sont toujours là, quoi. Avec des fenêtres à meneaux qui sont simplement des petits bouts de bois et on a l'impression que c'est de la pierre sculptée au bout du compte.
Ça demande une grande connaissance historique.
Ben, pas vraiment, moi je ne l'avais pas au départ. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin, l'important c'est de connaître la matière et de jongler avec, quoi.
Parce qu'il y a une évolution, certainement, avec la matière, justement.
Alors après, c'est vrai que la matière, c'est celle qui vous guide, quoi. Comment dire, elle parle toute seule, on n'a qu'à la suivre. Et donc après, quand on la voit dehors, quand on la voit dedans, quand on voit tout ce qui a été déjà réalisé, c'est certain qu'on s'y intéresse. Et après... On trouve même au niveau des, par exemple dans le Moyen-Âge, le pourquoi. Donc on remonte dans l'histoire du temps. Si on se ramène, par exemple, il faut savoir que juste après l'an 1000, toutes les églises ont explosé. Donc tous ces chapiteaux extraordinaires avec tous ces personnages, etc., donnent une ambiance d'époque. Et il est toujours intéressant de se remettre dans cette ambiance, essayer de comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé. il est toujours bon de dire, tiens, finalement, c'est la peur de l'an 1000 en tant que la fin du monde, c'était leur problème. Et puis, ils ont passé l'an 1000, et puis ça a été une véritable renaissance, quoi. Donc, tout l'art a explosé de partout. Les grands mécènes, enfin, les châtelains ou autres, eh ben, construisaient des chapelles et des églises à tire-larigot, enfin, voilà. Et donc, on apprend beaucoup au travers, bien sûr, de cet ensemble, l'histoire de la France. Et d'autre part, bien sûr, et aussi bien du Maghreb, puisqu'ils en ont aussi de partout, quoi.
Alors, je vous demandais tout à l'heure si, dans la région, vous étiez nombreux à exercer ce beau métier.
Alors, je ne saurais pas dire précisément, parce que je suis un peu particulier. Je considère que quelqu'un qui fait un petit décor, ne serait-ce que parce que je l'ai formé, par exemple, mais qui n'en a pas fait son métier, ben c'est un petit gibier. Alors, il a peut-être les priorités à faire des enduits à la chaux, etc., mais il va rajouter une petite modénature. Donc, il y avait beaucoup de ces gens-là avant qui aimaient bien faire des décors et qui sont toujours là aujourd'hui. Après, des vrais gibiers qu'on va retrouver et qui seront appelés par les monuments historiques, etc., des sélections. Alors, bien sûr, on n'est pas nombreux, oui. Donc, il y en a, bien sûr, qui se font connaître à grands coups de publicité, de sites, etc. Et puis, d'autres qui sont connus par leur savoir-faire. Moi-même, mon fils, des ateliers de renommée qui travaillent pour les monuments historiques, aimerait bien certainement pouvoir l'embaucher, par exemple. Et c'est vrai qu'on est toujours entre la liberté avec tout ce que ça impose comme contrainte, donc un esclavage de temps et de difficultés qui sont impressionnants, font balancer contre le fait de ne s'occuper qu'avoir à travailler, quoi.
Il faudrait quelqu'un qui vous fasse les papiers.
Ça, quelque part, c'est vrai, mais c'est... Oui,
c'est pas trop possible.
Si, moi au départ, je les ai fait moi-même, puisque j'avais en parallèle passé à un DUT de gestion d'entreprise. Et puis après, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessaire, il suffit de tout amener à un comptable. Par exemple, si vous prenez un comptable, vous aurez certainement une déduction qui quasiment va vous rembourser le comptable. Bien sûr, il faut arriver à un certain chiffre, autant qu'on peut faire. 4 sacs et puis tant de mètres carrés à facturer, on en reste là. Et c'est vrai que le statut d'auto-entrepreneur, pour ça, aurait dû être un soulagement, ce qui l'est de moins en moins, parce que par derrière, les assureurs, les chambres des métiers, etc., n'ont pas su voir l'intérêt de ce statut et ont essayé de remettre tout le monde dans le même format, quoi.
Donc c'est aussi un problème, ça.
Oui, bien sûr, la comptabilité, c'est aussi un problème, puisque avant, par exemple, je me souviens, c'était simple, je prenais un sac de plâtre, paf, je repartais avec, on payait, c'était fini, quoi. Maintenant, on n'a plus le droit de se servir directement, donc il y a une perte de temps, il faut attendre le magasinier qui est débordé, parce qu'on ne va pas en mettre qui vous attendent, ça coûte trop cher. Donc on attend quelquefois pas mal de temps. Ensuite, il faut attendre, faire un petit peu la queue à la caisse, tout ça pour avoir son papier, le remettre au comptable. Tout ça, c'est pour mettre de l'eau et simplement du plâtre dans cette eau. Ça fait un peu désordre et ça nuit à la profession et au savoir-faire qui pourrait se dégager de tout ça. Parce qu'on ne demande qu'à mélanger, à mettre sur le mur et décorer, quoi. Et tout ce temps perdu, bien sûr, j'imagine que tout ce qui est facilité Internet ne doit pas faciliter grand-chose dans cette affaire, quoi.
Alors, vous avez beaucoup travaillé en tant que gypsier. Aujourd'hui, vous continuez ou vous faites essentiellement des conférences
Alors, aujourd'hui, j'ai arrêté mon activité, entre autres parce que je me suis donné une maison à restaurer et voilà. Ensuite aussi parce que malgré tout, j'ai eu 5 enfants, donc pour les nourrir, j'ai beaucoup travaillé, ce qui était bien. Au contraire, c'est sans regret. Et puis, donc, j'ai fini par avoir des problèmes un peu de, comme tous ces gens-là qui travaillent trop, quoi. Un peu de vertèbre, un peu ci, un peu ça, quoi. Et en ayant réduit mon activité, ben, tout ça, ça se remet en place, ça s'adapte, comme on fait toujours. Donc aujourd'hui, ça me va beaucoup mieux. Et je souhaitais surtout laisser la place aux jeunes, parce que il faut savoir s'arrêter, c'est pas sérieux de continuer, quoi. Bien sûr, c'est là qu'on aurait le meilleur gain, tous les avantages de continuer encore. Alors, c'est certain que dans tout mon parcours, j'ai eu des envies à certains moments de faire ci, de faire ça, de faire un modelage. Je n'ai pas toujours eu le temps de le faire. Ça reste dans la tête. Et bien sûr, je souhaite que ça puisse se faire maintenant, pour moi tout seul, quoi. Enfin, pour mon plaisir. Voilà.
Et vous avez formé nombreux jeunes. Vous êtes intervenu dans quelle structure ?
Alors, oui, j'interviens dans beaucoup de structures. Alors, ça fait quand même une vingtaine d'années que j'interviens sur le Gabion. Le Gabion, c'est vraiment très, très intéressant. Il forme en restauration du patrimoine sur 9 mois. D'autres organismes le font aussi. Le Gabion, il a quand même un atout, c'est qu'il cherche à faire prendre conscience que les choix techniques entraînent des choix de société. Je veux dire par là que c'est un peu un engagement personnel. Ils vont tenir compte de la dimension humaine, de l'environnement, de l'acte de bâtir, etc. Et donc, dans tout cela, on s'est rendu compte, bien sûr, qu'il y avait un manque en restauration du patrimoine. Il n'y avait pas réellement d'école, de formation. Et donc, ils vont toucher à tout le bâti ancien, aussi bien dans les murs, la pierre, la couverture, etc. Et bien sûr, le plâtre, on m'a demandé, si possible, d'intervenir. Ce que je fais, et bien sûr... Alors, c'est une formation qui, d'ailleurs, se fait sur 9 mois. C'est 1200 heures de formation. En ce moment, il y a d'ailleurs tout un recrutement qui se fait pour une formation. Il reste quelques places. Ça va se faire du 24 avril, le départ, jusqu'à, je pense, janvier 2015.
C'est vous qui formez ?
Non, c'est, non, c'est plein de formateurs comme moi. Voilà. Et donc, moi, je m'occupe que de cette partie plâtre, voûte, escalier, gypserie. Souvent, on fait une petite démonstration de stuc marbre, non pas pour qu'ils en fassent, parce qu'ils seront amenés à en faire très peu et ils n'en auront pas les compétences, mais pour que s'ils en rencontrent dans le bâti ancien, ben, qu'ils sachent que ça existe, comment c'est à peu près fait, et qu'ils puissent le reconnaître, parce que quand c'est bien fait, on ne sait pas, quoi.
Alors, par rapport à votre métier d'artisan gypier et formateur, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Est-ce que c'était une évidence pour vous de former à votre tour ?
Non, pas du tout. J'ai pas souhaité rentrer dans la formation. Sinon, par exemple, la Chambre des métiers de Saint-Laurent-du-Var m'a demandé. Donc là, ça s'adresse qu'à des professionnels avec les droits qui correspondent à ce qu'ils versent pour l'apprentissage. Si j'avais souhaité faire formateur, je me serais adressé partout. Je crois que d'office, de par ces références, j'aurais été accepté aussi bien à Marseille qu'à Montpellier, partout, quoi. Donc vraiment, c'est pas ce qui m'intéressait. C'est vrai que quelque part, ça me paraît tellement logique, quoi. Donc tant que ces organismes-là, comme le Gabion, considèrent que j'ai mon rôle et qu'ils n'ont pas tellement trouvé mieux, je souhaite qu'ils trouvent de mieux en mieux, bien sûr, je continue à exercer, quoi. Hein. Là, c'est comme l'école d'Avignon, là, ils vont certainement être contents que je continue moi-même. J'ai tout un programme à vous annoncer. Je pense qu'on va y venir
tout à l'heure. On parlait de votre savoir-faire. Est-ce que vous avez édité un livre sur votre parcours et votre savoir-faire ou est-ce que c'est en cours?
c'est une question vraiment qui me plaît beaucoup parce que c'est souvent, on me demande si j'ai écrit un livre ou si je compte en faire un et qu'il fallait que j'en fasse un, enfin, etc., quoi. Alors, j'aurais tendance à lire que un livre, quelquefois, ça ne peut pas aider. C'est donner des recettes toutes prêtes. Et alors, du coup, les gens ne vont pas avoir la souplesse de s'adapter. Ils vont prendre une recette que j'ai donnée et ils vont croire que c'est celle-là, quoi. Alors qu'il n'y a pas de recette dans le plâtre. On se les fait soi-même en fonction du support, en fonction de ce qu'on souhaite obtenir. Alors, tout ça, ça me freinait. Et souvent, je répondais, non, le plâtre. Et puis, donc je renvoyais toujours à l'encyclopédie. Là, au moins, on a quasiment des recettes quand même plus fiables au travers du passé. Alors que moi, j'ai pas de recettes. J'ai le plaisir de connaître tous ces différents plâtres, que ce soit la chaux, etc. Et de jongler en fonction de ce qui m'intéresse à réaliser et bien sûr du support là où ça va se retrouver, quoi. Alors, dire que je ne vais pas écrire, finalement, je me dis si tout ça, c'est tant demandé, c'est pas ce qui me motive. Par réflexion, je me suis dit c'est plutôt les difficultés d'un artisan, les facilités, les joies que ça apporte, l'équilibre surtout, parce que quand on est dans ce domaine où aussi simple on arrive à créer, donc avec des résultats de cause à effet immédiat, je vous garantis, on a une stabilité, on a les pieds sur terre. Et on a un équilibre dont on a de plus en plus besoin aujourd'hui. Je devrais même dire que le mettre de l'eau et du plâtre, ça manque. On devrait le faire beaucoup plus tôt. Ça serait plus normal que, comme les petits oiseaux, à 7 ans, les enfants, ils aient déjà fait leur maison. Mais à force de tout leur apprendre, leur apporter, etc., ils se retrouvent quelquefois complètement largués. Et des gens de 25, 30 ans qui viennent à nouveau se remettre dans ce genre de bâti, on s'aperçoit que ça les remet en place. Ils n'ont jamais rien pu faire de leur domaine, et si simplement. Et du coup, enfin, ils font quelque chose et enfin, ils ont des possibilités de s'épanouir et de grandir, quoi. Dans ces périodes où on se retrouve avec des... Comme on le voit d'ailleurs au travers des élections actuelles, où on va dire que si le métier de plâtrier est souvent considéré comme sale, rébarbatif, on s'aperçoit qu'il est bien plus intéressant, bien plus propre que tous ceux qui gèrent un peu l'ensemble, pour une grosse majorité, quoi. Donc tout cela, c'est pas évident à gérer. Et le plâtre, là-dedans, c'est super, quoi.
Donc ça peut être un métier d'avenir. Est-ce qu'on peut conseiller aux jeunes de s'initier?
Moi, je dirais pas de la sorte. C'est pas vraiment un métier d'avenir, puisque la gypserie aujourd'hui, ça va être de la restauration, il y a déjà du monde, etc. D'en rajouter quelques-uns, bien sûr, c'est bien. Par contre, ça a toujours marché comme ça. C'est-à-dire que quand ça plaît, on fait des belles choses, et quand on fait des belles choses, elles se répercutent, elles sont demandées. Donc, remettre l'avenir de ce métier se fera qu'avec les gens qui sont motivés.
Des gens passionnés.
Et à ce moment-là, il y aura vraiment de l'emploi dans le domaine, parce qu'il y a un engouement du public à retrouver tous ces savoir-faire. Et bien sûr, ces savoir-faire, il faut qu'ils soient en compétition avec les matériaux modernes. Et je parle bien sûr de tous ces matériaux plastiques, etc., de cette facilité. Par exemple, le poser des feuilles de placo plate, ça paraît pas cher, mais finalement, entre la fabrication, tout l'argent, tous les allers-retours que fait le placo, par exemple, je pense à la carrière de laser qui envoie à l'usine de Chambéry pour fabriquer son placo, tout le gypse qu'ils extraient, et qu'ensuite il va nous revenir ici, un aller-retour de tout ça, bien sûr, ça crée des produits plus chers. Et qu'on finit quelquefois avec tous les commerciaux qui doivent vendre ces produits. En faisant simplement du plâtre, on est même moins cher que le placo, quoi. Bien sûr, il faut savoir le faire, quoi. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas un avenir dans le plâtre. Je crois que la garantie du plâtre, c'est le plaisir du travail, de le faire connaître, de cette matière qui vous suffit en soi, et bien sûr c'est une matière qui ne demande rien pour être cuite, quoi. Ça consomme 40 fois moins d'énergie que de faire de la chaux. Et tout ça, bien sûr, aujourd'hui on commence à y être sensible, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, et je pense qu'il a un retour, ne serait-ce qu'au travers de, par exemple, le Gabion, qui s'intéresse à l'éco-construction et qui fait une formation de 9 mois dans ce domaine à Mannes, à côté d'ici, quoi. voilà, pour ce qui est du futur et mon idée, voilà.
Donc, on va venir peut-être au programme, vos projets à vous.
Alors, mes projets, ben, j'en ai guère, mais mes projets, ils étaient un peu d'aller à la pêche, d'avoir le temps de vivre, et puis je m'aperçois que ce n'est pas le cas.
Mais ensuite, est-ce que ça dépend que de vous, ça? Vous ne savez pas dire non, parce qu'on vous sollicite toujours.
C'est vrai, alors c'est vrai qu'en projet, je mettrais un frein, parce que j'ai trop de demandes au niveau de ces manifestations, tout ça, il faut que je m'organise. Ensuite, je me suis rendu compte que déjà je voulais profiter de mes petits-enfants, et ça c'est souhaitable. Et je m'aperçois que ça se fait tout seul. C'est-à-dire que bon, ben, on va faire du stuc marbre, là, alors qu'ils ont que entre 13 et 4 ans, on va dire. Et ils se régalent, quoi. Et puis, etc. Donc ça fait les petits cadeaux pour la fête des mères, etc. Bon, je ne veux pas envahir mes enfants, ils en ont eu assez, mais. Mais quelque part, voilà, tout ça, ça fonctionne tout seul. Je pense que le relais est fait avec tout ce que j'ai déjà connu, vécu et enseigné. Et surtout, le relais, il est surtout fait avec tous les gars qui ont travaillé pour moi ou avec moi, comme ces artisans plâtriers que soient, etc., ou d'autres, qui ont propagé tout ce savoir-faire. Donc maintenant, ils font des petites moulures partout. En plus de leur plâtre, ils vont éventuellement se lancer sur une cheminée plâtre, alors que les TU sont un peu délicats avec tout ça, quoi. Donc on met en même temps un peu de recherche. On met au point des matériaux qui permettent de passer justement en matière de cheminée. D'où, par exemple, la vermiculite, un avantage énorme, puisque ça résiste à 1200 degrés. Etc. quoi. Donc tout cet ensemble fait que ça fonctionne bien. Et moi-même, je le fais un peu en dilettante. Et c'est vrai que là, pour cette période, je me suis donné un peu le bâton, puisque on m'a demandé coup sur coup d'établir une conférence, de refaire un peu plus de formation. Et c'est vrai que pour moi, c'est un plaisir, quoi.
Vous êtes heureux que votre fils continue dans cette même branche?
Je ne peux pas dire ça, non.
Non.
Non, non, non.
Hein, parce qu'il va être face à des difficultés aussi.
Non, c'est pas tant ça, mais par exemple, si j'avais donné une prolongation, donc c'est un peu mon fils, dans mon savoir-faire, je me serais débrouillé pour avoir suffisamment d'avance financière pour ne faire plus que des maisons en voûte, dans lesquelles, bien sûr, il rentrait du plâtre, des gypseries, des moulures, enfin, mais dans un style tout récent, pas toujours du 18e ou du 17e qu'on s'est retrouvé nous-mêmes à le faire. Donc de la création plus récente. Et c'est vraiment le projet que je souhaite qu'il avance un jour, s'il en a la possibilité, parce que c'est certain que ça veut dire qu'il faut... comme tous les promoteurs, ben, se retrouver avec du terrain, etc., des demandes de permis, c'est un autre souci. Mais c'est c'est un chantier plus intéressant, plus stable, plus modeste. Quand on passe sa vie tous les 15 jours à aller de droite et de gauche, etc., de rebondir, faire une cheminée d'un côté, un escalier, etc., c'est à la fois agréable, surtout si on a le temps de visiter les pays qu'on traverse. Mais souvent, on n'a guère le temps, et j'ai appris, bien sûr, à me le donner petit à petit quand je voyageais. Et malgré tout, ben, on est toujours face à un mur, quoi. Alors j'ai fini par choisir mes chantiers, bien sûr. Quand je vais à Monaco, je ne vais pas m'amuser à être dans un immeuble où on ne voit rien. Je vais aller juste au-dessus, choisir un beau soleil où on a une belle vue sur la mer et tout. Pour les 5 minutes où on doit sortir chercher un seau d'eau, ben c'est sûr que ça change tout, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Bon, pas grand-chose, parce que je crois avoir été bien satisfait tout le temps, quoi.
Et vos filles sont-elles aussi dans le faire? Dans des métiers créatifs
pas tous, hein. Mm-hmm. Oui. J'ai une fille qui se retrouve dans la poterie, une mordue de la poterie, qui n'a pas souhaité cette aliénation. Alors, est-ce que c'est encore à cause de moi, les soucis que ça peut engendrer de créer son entreprise? Donc, elle tourne pour tous les potiers autour d'Apt, une grande partie, quoi. Et finalement, commence un petit peu on lui demande aussi d'enseigner un peu tout cet art, la poterie, etc., quoi. Voilà, après les petits-enfants déjà, mais je souhaite à chacun sa vie. Ça se fait tout seul.
En tout cas, de trouver, de faire son métier avec passion, c'est important.
Oui, je crois que c'est capital. Mmh. Et puis se sortir un peu de tout ce. Il faut avoir. L'avantage quand on a une suffisance dans cette matière, c'est qu'on a. Pas besoin d'autre chose, quoi. On n'a pas besoin d'un véhicule sophistiqué pour se déplacer, on n'est pas des matuvus, etc. Non, on est trop content, quoi, du matin au soir, et si ça nous rapporte de quoi manger et puis d'élever une famille, c'est vraiment super, quoi. Voilà.
Est-ce qu'on a tout dit, Pierre Caron?
Oh, que non.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire avant de terminer cette émission, un message important ou parler de personnes qui ont compté dans votre parcours?
Déjà, ils ont tous compté, quoi. Même s'il y a des difficultés ou autres, même si je m'engage avec quelqu'un ou je vais en dire du mal par derrière, comment dire, c'est parce qu'il le mérite. Mais tout ce que je souhaite, et c'est peut-être ça que j'ai appris, c'est que le plat vous amène toujours un espoir, donc une remise en cause tranquille, avec des solutions faciles. Et je pense que tous ces gens qui ont mal bâti leur vie se retrouvent peut-être grâce à cette matière quelque part dans le bon sens, quoi. Après, ce que je souhaite, c'est peut-être d'écrire un livre, mais ça, je ne le ferai que si je m'arrête de fumer, parce que je me vois mal en train de fumer comme un malade toutes les deux pages, quoi.
Ah oui, d'accord. Ah oui, il faut choisir entre le stylo ou la cigarette. Ou alors vous écrivez en pyrogravure.
C'est si simple pour moi. Alors après, bien sûr, je peux pas tout dire. J'avais un peu à cœur de parler de ce qui va se passer un peu au travers du gypse et du plâtre et des manifestations qui auront lieu demain, quoi. Mmh. Donc, et de citer un peu pour tous ceux qui seraient intéressés à se former ou autre, ou au gré de stage, des possibilités, quoi. Donc c'est vrai que j'interviens souvent et beaucoup dans des manifestations comme les journées du patrimoine, etc., où là, c'est une forme de bénévolat dans lequel on se retrouve. Le plus simple pour moi, c'est de faire du stuc marbre, tellement ça plaît. Puis on peut se mettre n'importe où sur une place publique, on se met en route, on mélange nos farines et nos colorants, puis tout de suite, on a une foule qui se tourne autour et qui se demande qu'est-ce qu'il fait, quoi. Et tout ça, alors, ou tout simplement, un peu de démonstration de moulure, c'est aussi intéressant et très efficace. Après, bien sûr, il y a tout le domaine de la formation. Et donc, comme je disais tout à l'heure, j'interviens sur la Chambre des métiers de Saint-Laurent-du-Var. Ce sont des formations de 3-4 jours, rarement une semaine. Alors là, pour ceux qui souhaitent aller vers le staff, il y a une formation staff. Je fais aussi les escaliers, voûtes et cheminées. Donc là, c'est briques et plâtre. Le stuc marbre aussi. Donc c'est la réalisation en plâtre dur et colorant. De fausses pierres, de faux marbre. Et puis, ils font aussi tous les mélanges isolants, décoratifs au travers du plâtre. Alors, bien sûr, comme je le disais aussi, j'interviens également pour l'association Le Gabion. Donc, depuis 20 ans, ils forment des ouvriers professionnels en restauration du patrimoine, les OPRP, formation de 1200 heures. Ça se passe soit en Brun, soit à Mérargues. Et là, pour la session d'Embrun qui démarre le 24 avril, je le répète, il reste encore des places. Ça les engage jusqu'au 25 janvier. Alors, pour ce faire, là, si vous êtes demandeur d'emploi, donc les financements sont, on peut dire, assurés par la région PACA dans ce domaine. Le Gabion forme également des ouvriers professionnels en éco-construction. Pareil, 1200 heures et 9 mois. Ça se passe à Manne actuellement. Et en parallèle, ils organisent pour les professionnels, les autodidactes ou les particuliers, des stages d'une semaine. Le prochain aura lieu à Embrun du 24 au 28 dans mon domaine et concerne les voûtes et les escaliers. Donc c'est des briques et des plâtres. On fait des escaliers catalans, sarrasins, des voûtes, etc.
Ce sera quand ça?
Du 24 au 28 avril.
Ah d'accord.
Donc c'est assez proche là, oui. Alors j'interviens également dans une formation et de manière plus artistique pour l'école d'Avignon. C'est des formations plus pointilleuses et qui organisent tout un ensemble de stages qui aillent aussi bien de la peinture, la marqueterie, etc. Et dans mon domaine, le 19 et 21 avril, c'est pour les maçons du patrimoine et ça concerne la gypserie. Du 3 au 5 mai, les plâtres et chauds. Du 12 au 16 juin, le stuc marbre à la scagliola. Et du 26 au 30 juin, c'est le moulage. J'interviens également pour le Greta à Die dans la Drôme, Greta Viva 5, qui forme également des ouvriers professionnels. Alors, ça, c'est pour la formation. Je serais peut-être appelé à réduire un de ces quatre parce que ça commence à...
Oui, parce que là, pour la pêche, ça va être dur, là.
surtout que bon, ça me démange, hein, je frétille. Ensuite, j'interviens pas mal pour des démonstrations. Moulure, gypserie, modelage ou stuc marbre pour diverses associations. Donc, je citerai surtout l'association JIPART et Matières, où je suis adhérent depuis une quinzaine d'années, qui avait organisé le colloque Gypier des villes et Gypier des champs à Digne, une très belle manifestation en 2004, et qui organise le 8e symposium de sculpture sur gypse et modelage plâtre, en partenariat avec la commune de Laragne, Laragne-Montéglin, avec le soutien logistique et financier de la Fondation Placoplate.
Ça, c'est où, ce 8e symposium ?
Alors, celui-ci, il va se dérouler du 21 au 27 août à Laragne. Donc là, on fait venir des grands artistes sélectionnés, et beaucoup de sculpteurs qui vont tailler des blocs de gypse. Et l'intérêt, bien sûr, c'est de rester dans cette matière et ça donne des sculptures vraiment... très agréable, très lisse et scintillante. Donc là également, je vais certainement intervenir en conférence puisqu'il est prévu de faire des conférences un peu diverses pendant cette semaine-là. Donc à Laragne, au mois d'août. Mm-hmm. Ensuite, concernant le hangar à livres, puisque je restaure pour moi à Saint-Julien-d'Ars, le hangar à livres, il veut dire tout simplement que vous pouvez arriver avec un livre qui ne vous plaît plus et puis repartir avec un qui vous plaît, quoi. Donc le but, c'est du troc. C'est du troc, oui. Mm-hmm. Et alors eux-mêmes, ils ont souhaité élargir, et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé, puisqu'ils m'ont rencontré, de parler de tout ce que je sais faire. Et donc, parmi les métiers, puisqu'ils sont partis d'un livre qui parlait des vieux métiers, on ne sait pas encore la date, mais on a en projet de faire venir un relieur. Bien sûr, c'est plus adapté au livre, quelque mm-hmm. part. Donc, il nous présentera cette technique, je ne sais pas encore à quelle date. Par contre, alors, le 9 juillet, ils ont invité Jacques Tenoroni, écrivain qui viendra vous présenter son roman. Le titre, c'est L'avant-dernier meurtre. Ça concerne l'insurrection de 1851 dans les Basses-Alpes. Donc ici, nous en sommes bien concernés et je vous invite à suivre le hangar à livres pour savoir où c'est exactement que ça va se passer et à quelle heure. Donc après, comme petites annonces, j'ai toujours... une manifestation qui se fera le 12 octobre à 18h à Puymoisson Et Fabienne Galis, qui s'occupe du musée de la gypserie de Riez, viendra vous parler des gypseries, de l'escalier de Mazan et de Riez et bien d'autres gypseries locales. C'est une conférence qui est organisée par la DLVA, la communauté de Manosque. Et surtout, bien sûr, la fête des vieux métiers Allemagne en Provence qui a lieu chaque année en septembre à la journée du patrimoine. Alors c'est le troisième dimanche de septembre. Et là, c'est une manifestation que j'aime beaucoup parce qu'elle est dédiée à la famille, elle n'est pas dédiée d'office, au métier, etc. C'est un peu une fête médiévale. Tout le village se costume et participe dans une ambiance vraiment extraordinaire. Donc,
et c'est où ça ?
On se promène donc dans Allemagne en Provence.
D'accord.
On se promène, on va découvrir toute une salle de classe refaite, un maréchal ferrant qui passe les annonces, on va trouver un vanier, des lavandières, un plâtrier bien sûr, un cordier, etc. et combien d'autres. Et on va même trouver une pièce où s'exerce le plus vieux métier du monde. Alors, le tout à midi avec son traditionnel aioli. Donc rendez-vous à Allemagne en Provence le troisième dimanche de septembre. Et là, en dernière minute, ma fille Aline, qui est potière incontournable, excusez-le le mot, mais me signale ce jeudi 6 avril à 17h30, donc c'est demain, à Apt, une présentation de décor à la chaux, donc chaux et plâtre. Hein. Donc il y a des décors qui doivent être exposés, bien sûr. Et à 18h, ça sera suivi d'une conférence assortie. Cela est organisé, c'est présenté par Olivier Durandin et David Chalier au musée de l'aventure industrielle. Donc rendez-vous à Apt demain soir derrière la cathédrale. Voilà.
Derrière la cathédrale, à partir de quelle heure ?
17h30 pour ceux qui veulent avoir une explication des décors présentés. Sinon, l'exposition dure plus longtemps. Hein, mm-hmm. Et chacun peut aller voir les décors finis qu'ils ont mis en place.
Eh bien, ça y est, on a
voilà,
tout.
Oui,
ça fait un sacré emploi du temps, ça, tout ça. Est-ce qu'on peut retrouver ces dates quelque part ou on mettra peut-être
alors,
un,
bien sûr,
y a des liens
il y a des sites, voilà. À moins que vous les mettiez vous sur...
Voilà, on pourra les mettre en lien. Donc, citez-les-moi les sites
alors,
qui seraient...
Alors, on a www.legabion.org. Mmh. Ensuite, on a hangar.livre avec un S @orange.fr.
Ah, ça, c'est pas vraiment un lien, c'est une adresse mail, ça.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Oui. Après, on a www.gypgyp-art-matière.com.
Tout au singulier.
Au singulier, oui. Bon, gypserie.com, ça sonne bien.
Mm-hmm.
Je pense que j'ai pas celui de l'école d'Avignon, mais je pense que ça va être très très facile à retrouver. Quoi. En tapant l'école d'Avignon, on doit. Voilà.
D'accord. Eh bien, je crois qu'il est l'heure de nous quitter, Pierre Caron. Merci de nous avoir consacré une heure à nous parler. De ce métier.
Disons, remercions plutôt la matière, car c'est elle qui me parle, et en gros, j'en suis qu'un interlocuteur. Au revoir tout le monde.
Merci, au revoir.
Merci de votre écoute.
Présidentielle française.